Voilà, j'ai souhaité à plusieurs, mais pas tout à fait à tous, une bonne et heureuse année 2026. C'est le premier culte. La plupart, on ne s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2025. Et que ce soit une année pleine d'espérance. Nous allons parler d'espérance. Et j'ai envie de dire, au-delà de ce drame qui a eu lieu à Crans-Montana, Daniel en a parlé, qui est vraiment, qui nous affecte tous, je pense, d'une manière ou d'une autre. Je parle avec quelqu'un, elle m'a dit c'est un peu notre Bataclan en Suisse. Alors c'est pas tout à fait le même cause derrière, mais c'est de cet ordre-là, je pense. Et je suis content qu'on puisse avoir ce temps après, qu'on puisse prier pour Aline et ceux qui s'occupent, mais aussi prier pour tous ces gens qui souffrent actuellement pour leur guérison. Vous avez peut-être vu, il y a tout un réseau qui s'est mis en place pour faire appel à des coupeurs de feu. Donc voilà, ces coupeurs de feu, c'est des gens qui ont le secret, ayant habité sur Fribourg, Jura, il y a des gens qui ont le secret, donc la source n'est pas la même. Donc nous, on est aussi au niveau du réseau, pas par opposition, mais aussi pour dire qu'on a un Dieu qui agit. On a aussi fait un appel à la prière pour ces 100 qui sont entre la vie et la mort, hein, faut bien être conscient, c'est la plupart pas des petits blessés, mais ils luttent pour la vie. Et j'ai vraiment l'impression que Dieu... Au-delà des pourquoi, mon message sera un peu là-dessus, l'espérance comme réponse à nos questions et aussi nos pourquoi, au-delà de ça, que Dieu puisse manifester sa gloire. Jésus l'a dit à un passage, s'il y a eu ça, c'est pour manifester ma gloire. Et il y a des témoignages déjà de gens qui ont vécu des miracles dans ce bar, qui ont fait appel à Dieu, qui ont été sauvés quasiment, ouais, miracle. Juste un témoignage, j'ai vu, alors je ne suis pas tellement les réseaux sociaux, mais aux nouvelles, il y a une jeune, ça m'a touché, elle a dit, j'ai mis ma main sur ma croix, j'ai dit, je ne veux pas mourir, et j'ai levé ma main. Et là, il y a quelqu'un qui est venu me sortir, et je voyais vraiment, je ne sais pas si c'était un ange, j'ai aucune idée qui, ou alors un sauveteur courageux, et je ne suis pas mort. Donc, elle avait la foi, certainement, il y a eu d'autres témoignages de gens qui ont vécu dans cette horreur, la puissance de Dieu aussi, et continuons de prier, qu'il y ait des gens aussi dans cet hôpital qui puissent être guéris, voir aussi l'œuvre de Dieu, sachant aussi que c'est des brûlures et que c'est des longues, des convalescences qui prennent du temps. J'ai tout de suite pensé à l'époque à Michel Renevier, le pasteur là, que vous connaissez certains, qui avait un accident de voiture. Et le souvenir que j'ai, il avait passé des semaines, même des mois, jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau greffer tout ce qu'il fallait. Il avait aussi été brûlé à je ne sais plus que moins de pourcentage. Et la plupart des gens auront aussi une hospitalisation longue, certainement, mais voir aussi que Dieu puisse agir. J'aimerais juste encore... Ah, là, je suis devant le micro, ce n'est pas très bon. J'aimerais encore faire une annonce, je l'ai déjà fait avant Noël, mais j'aimerais la rappeler pour la semaine universelle de prière. Donc, vous connaissez ou pas, c'est une semaine qui va commencer, ça aura lieu du 11 au 18 avril au niveau national, mais pas seulement national, au niveau janvier, pardon, excuse. Et sur Genève, ce sera du 12 au 16 janvier, c'est un peu plus court, mais il y a tout un programme, déjà une brochure. J'en ai plusieurs là au fond, j'en ai bien assez. Servez-vous, on les vend à 3 francs la pièce et un prix soutien à 5 francs. J'en ai amené 20, il en reste 19, donc il y en a bien assez. Faites ce petit don pour ça et surtout priez durant cette semaine. Le thème, c'est Dieu est fidèle. Et je crois que c'est vraiment aussi en ce début d'année, Dieu est fidèle. Il tient ses promesses avec différentes... Il y a à chaque fois une présentation, un petit témoignage, un petit message, des sujets de prière, des sujets aussi d'intercession. On ne va pas faire d'action spécifique au niveau de notre paroisse, mais chacun peut le faire à titre personnel, peut-être dans certains groupes de prière, ils pourront l'utiliser. Et surtout à Genève, il y aura donc chaque soir, là du 12 au 16, différentes réunions dans des lieux différents. Par exemple, lundi 12 janvier, Espace Lumen, l'ELG est pas mal impliqué, je vois. Mardi 13 janvier, ELG Rive Droite. Il y a aussi à l'église hispanophone, donc du lundi au vendredi. Vous trouvez toutes ces infos sur le site, soit du réseau suisse ou aussi du réseau de Genève. Et puis, prenez, si vous êtes intéressé aussi à prier une de ces brochures. Aujourd'hui, en principe, c'est un culte mission, donc ça veut dire que c'est des cultes où on parle plutôt de ce qu'on fait vers l'extérieur, comment on vit notre mission, groupe d'hommes, on a eu différents projets qui ont été présentés dans le passé. Donc ça ne sera pas ça aujourd'hui, mais je pense quand même qu'il y a une dimension missionnelle dans ce message. On va parler d'espérance. D'espérance qu'on possède en Dieu au travers de Jésus, et notre mission est avant tout un message d'espérance. J'ai l'impression que c'est ce que je nous souhaite à nous, qu'on puisse être, en cette année 2026, des porteurs d'espérance. On verra ce que ça peut être, mais dans toutes nos sphères d'influence, familiale, travail, loisirs, voisinage, dans notre Église, être porteur d'espérance. L'espérance en Jésus, l'espérance en ce que Dieu fait, on verra le salut de Dieu, mais aussi tout ce qu'il veut faire dans nos vies, et que ça puisse être un témoignage dans notre mission que nous avons ici sur terre. On va lire deux psaumes qui parlent d'espérance, les psaumes 42 et 43. Pourquoi ces deux psaumes à la suite? En les lisant, 42, après je disais 43, ils se ressemblent pas mal, ces psaumes. Et effectivement, ces deux psaumes qui, à l'origine, ne formaient qu'un seul psaume, il y a une même structure, un même refrain qui revient à trois reprises entre ces deux psaumes. Certains ont appelé ce psaume le psaume de lamentation unique, ou bien aussi le psaume du désir de Dieu. Alors, c'est du désir, d'avoir désir de Dieu. On a déjà un peu dans le chant, avoir soif de Dieu est une des dimensions de ces deux psaumes. Alors, lisons-les ensemble. Je vous invite à accueillir cette parole de Dieu. J'ai envie de dire comme si vous l'entendiez la première fois. Qui est-ce qui a jamais lu ce psaume, là, en le lisant? Je pense qu'il n'y a personne qui va lever la main. Donc, vous dites, je le sais. Hein, ça commence comme ça, je sais. Ça commence comme ça. Je vous invite c'est la parole de Dieu, qu'elle puisse nous toucher ce soir. Alors, lisons, je vais vous lire ces deux psaumes. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je passe la slide suivante. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle, délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Que nous dit ce texte? Tu peux passer la slide suivante. Le psalmiste soupire après Dieu. C'est un besoin qui est ressenti comme quelque chose de vital. En raison de cette comparaison qui est faite avec un animal, une biche, qui a soif et qui aspire à trouver de l'eau. C'est comme si cette, une biche ou tout animal ne peut pas vivre sans eau, de même l'âme de l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et cette sensation de soif est un signe finalement qu'un besoin, celui de boire, n'est pas ou plus assez comblé. Même que là, il y a un peu des différences entre les personnes. Certains, ça va long jusqu'à ce besoin qui est ressenti. D'autres, ils ont très vite un besoin, donc il y a un peu des différences. Mais c'est quand même finalement un signe quand on a soif. C'est comme une lumière qui s'allume à un moment donné. Attention, je vois un peu le moteur qui commence de chauffer. Il manque de l'eau, ça va surchauffer. Il faut remettre de l'eau. J'ai soif, il faut remettre de l'eau pour vivre. On connaît les symptômes d'un manque d'eau, de soif, bouche sèche, chaleur intérieure, peut-être vertige, maux de tête. Donc on sait un peu capter ces signes et puis dire à un moment donné, là il faut que je boive. Si je ne bois pas, je pourrais avoir mal de tête par exemple. Et je me suis posé la question, si on transpose en soif de Dieu, quels sont les symptômes de soif spirituelle, finalement du manque de Dieu, de manque de l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qui nous fait dire à un moment donné qu'on a une soif de Dieu? Et je pense, si on le voit dans ce psaume, c'est qu'un des symptômes est qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, sur ce qui nous arrive, sur ce qui arrive à Montana peut-être, sur ce que fait Dieu, ou alors ce qu'il ne fait pas. Parfois on attend à ce qu'il fait, il ne fait pas, et on se pose des questions. Oui, Dieu nous attire à lui, il nous donne soif de lui en éveillant en nous des questions salutaires, et il y en a plein dans ce psaume, des questions qu'on se pose. Si on sait tout, il y a des gens qui savent tout, si tout est clair, si on est convaincu d'avoir raison, c'est peut-être un signe qu'on n'a pas vraiment soif ou besoin de Dieu finalement. Si on sait tout, on ne se remet pas en question, la vie elle est claire, des questions un peu de fond qu'on ne se les pose pas, c'est comme si cette soif pouvait pas n'était pas là finalement. Mais Dieu est tellement bon et miséricordieux qu'il nous met devant des situations à premier abord difficiles ou incompréhensibles afin qu'on se pose des questions. Et c'est mon cœur aussi pour ce qui se passe avec ce qu'à Cremontagne, les gens se posent des questions. Alors, pas des questions du style qui est le fautif, la justice va faire son travail, mais des questions sur le sens de la vie. Tout à coup, des jeunes de 14 ans qui meurent. Un jeune qui voulait entrer, il n'a pas pu entrer, et lui, il n'est pas mort. Pourquoi lui? Pourquoi moi? Des questions qui sont là. Un autre symptôme de soif, c'est peut-être que notre capacité à vivre dans la paix et à pouvoir être capable aussi d'affronter le quotidien sont affaiblies si on n'est pas nourri spirituellement. Et j'ai vécu récemment, on a passé quelques jours en famille en Valais, et puis voilà, on avait un petit appart et j'ai pas vraiment eu de possibilité de passer mon temps avec Dieu le matin. Alors vous allez me dire, c'est une habitude. Mais là, pendant 5 jours, je n'ai pas eu ce temps avec Dieu que je passe le matin, parce que voilà, je n'avais pas vraiment de lieu qui s'apprêtait à ça. Et puis, je voyais que c'était un manque à un moment donné. C'était quelque chose, c'est comme si les journées étaient autrement. C'est comme si c'était plus difficile à faire face. C'est comme si on était plus à subir, j'ai envie de dire. Je parle pour moi, vous avez tous vos stratégies, vous passez du temps avec Dieu. C'est comme si on était plus à subir les journées qu'à les vivre, ou à accueillir ce qui se passe, accueillir ce que Dieu veut nous dire. Parfois, juste nous donner la force pour les affronter, parfois d'accueillir des belles choses. Des fois, on ne voit juste plus des choses, on est un peu dans notre... Voilà. C'était pour moi aussi un peu une manière de dire, c'est important ces temps, c'est une manière où je me nourris, c'est une manière qui me permet aussi dans la journée de pouvoir faire face. Certainement que vous avez, vous, vécu plein d'autres expériences qui vous ont dit à un moment donné, mais finalement, ce que je vis là, c'est j'ai juste soif de Dieu, quoi. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de lui. C'est peut-être un besoin de s'arrêter tout à coup. J'ai dit, mais là, stop. Seigneur, je prends un temps avec toi maintenant. J'ai besoin de, juste de retrouver la paix, de retrouver peut-être de l'énergie, de retrouver de l'espérance aussi pour que la marche soit plus paisible, ça peut être ça, plus vivante, plus joyeuse aussi dans notre quotidien. Cette soif de Dieu, elle a conduit ici, on va passer à la slide suivante, à beaucoup de questions. Donc les descendants de Corée, hein, les auteurs de ce psaume, se sont posés beaucoup de questions et ils ont aussi été confrontés à des questions qu'on leur a posées. Et la première question, et en fait il y en a deux que je prends ensemble, là, c'est « Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Et cette première question ici qui se pose, elle est directement liée à un événement du passé, hein, quand il nous a dit que l'auteur avançait à la tête du peuple d'Israël en direction de la maison de Dieu, dans la joie, dans la fête. Et certainement qu'il devait se poser des questions du genre « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en être là aujourd'hui ? Je me sens tellement loin de Dieu, je ne sais pas vraiment où il est et comment et quand entrer en contact avec lui ?» C'est un peu, j'imagine ça qui se passait dans sa tête. Et en plus, il fait face à une question du peuple. « Où est ton Dieu ?» Et c'est dit deux fois dans ce passage, aussi au verset 11, les gens autour de lui disaient « Où est ton Dieu ?» Ce qui a provoqué ses larmes, hein, qui deviennent sa nourriture jour et nuit. Donc lui ne comprend pas, et les autres aussi ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas où est Dieu aussi là-dedans. Et la question qu'il pose est, je vois d'un côté pertinente, où est ton Dieu ? J'avais une fois entendu un témoignage de quelqu'un qui avait vu dans une cabine téléphonique, donc je pense que ça devait un peu dater comme expérience, parce que je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, les cabines téléphoniques. S'il y en a, c'est plutôt des livres dedans ou autre chose. Mais quelqu'un avait, je pense, voulu témoigner « Jésus est vivant ». Hein, autocollant en tac, puis quelqu'un avait mis trois petits points, mais moi je ne l'ai jamais vu, quoi. Donc c'est pertinent cette question, hein. Où est Dieu ? Mais d'un autre côté, c'est une question qui peut être dérangeante, hein, parce que c'est vrai que Dieu est invisible, on parle de Dieu, mais il est invisible, donc ça nous pose quand même quelque chose qui est, quand quelqu'un nous dit des fois, mais où est ton Dieu ? On peut juste lui parler de ce qu'on vit avec Dieu, on ne peut pas lui montrer. On ne peut pas être très concret, si ce n'est être des témoins de ce que Dieu fait dans nos vies et qui peut toucher les gens. Donc voilà la première question. Quand je peux te présenter et où est ton Dieu ? Et la deuxième question qui revient comme un refrain à trois reprises. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi ? Trois fois, il le dit. Et je vous invite, je nous invite à poser des questions à Dieu, la même, pas seulement une fois, deux fois, trois fois. On peut importuner Dieu, j'ai envie de dire, avec nos questions. Et les pourquoi sont des questions qui se posent, qu'on se pose et qui sont légitimes. On a besoin de comprendre, finalement, c'est ça. On a besoin de comprendre. Actuellement, là, à Montana, on a besoin de comprendre qui a fait l'erreur. On cherche des coupables, hein. Et ça, c'est très humain. Qui a fait ça ? Qui est responsable ? Et en même temps, il y a des pourquoi qu'on se pose, mais qui n'obtiennent pas de réponse claire. Ou bien que des suppositions. C'est parfois des questions qui, dès le départ, on sait qu'il n'y aura pas vraiment de réponse. En tout cas, pas toutes les réponses. Et dans notre relation avec Dieu, les pourquoi sont parfois aussi des impasses, car on ne sait pas. Et Dieu ne dit rien non plus. Pourquoi c'est arrivé ça ? En particulier quand le mal nous atteint, en particulier quand des casseroles nous tombent dessus, pourquoi ? Et dans ce verset, ce pourquoi est déclenché par un mal intérieur. Hein, mon âme est abattue. Gémissement intérieur. Ne sommes-nous pas parfois dans cet état, un peu agité ou abattu, en mode je me plains de tout, sans savoir vraiment ce qui se passe, pourquoi on a tel état. En tout cas, moi, ça m'arrive des fois, je sais pas, je suis pas très bien, je suis un peu abattu. On essaie de savoir pourquoi. Des fois, il y a des raisons, mais des fois, on est juste comme ça. Troisième type de question, je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Et un peu plus loin, toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ? Donc le psalmiste se sent tout d'abord oublié de Dieu. Dieu ne pense plus à lui, il a l'impression que Dieu ne s'intéresse plus à lui. il en arrive à se poser cette question. Hein. Alors, les versets qui précèdent, il est dit qu'il pense à Dieu depuis où il est. Puis, il se sent comme étant dans un abîme avec les flots qui passent sur lui. C'est un passage particulier. Hein, l'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. C'est un peu difficile à comprendre. Moi, je l'interprète un peu comme s'il est dans une spirale descendante, le gars. Il y a quelque chose qui, comme la vie, il passe dessus et au lieu de pouvoir remonter dans ce trou, il continue de descendre. On parle des fois de spirales descendantes. Il n'y a pas de spirales qui nous font remonter. Il se rappelle aussi quelque chose qui est de l'ordre du passé, où il sentait les grâces de Dieu se manifester, où il louait Dieu, adressait ses prières au Dieu de sa vie, c'est au verset 9. Mais sa question, intéressant, il l'adresse à Dieu, son rocher. Donc il reste confiant que Dieu reste son rocher et que ce qu'il pense, ce qu'il ressent n'enlève rien à qui est Dieu. Car il le connaît, il l'a expérimenté. Et le souvenir est très précieux dans ce cas. Au-delà de son sentiment terrible que Dieu l'a oublié, il affirme qu'il existe finalement, non seulement qu'il existe, mais qu'il est son rocher. Il se l'approprie. Et après, dans le psalmiste, d'autre part, il accuse aussi Dieu de le repousser. Et dans le verset qui précède, il est écrit : il s'attend à ce que Dieu fasse justice, qu'il défende sa cause, qu'il le délivre des hommes trompeurs et criminels. Comme Dieu ne répond pas à ses attentes, il a l'impression d'être repoussé, méprisé, en tout cas pas compris de Dieu. Et ici, il adresse sa question, hein, pourquoi me repousses-tu, à son Dieu protecteur. Car il croit sincèrement, même s'il doute certainement, que Dieu est capable de le protéger en face de ses ennemis, mais aussi au milieu d'une nation sans Dieu, d'une nation infidèle. Et la quatrième et dernière question que j'ai relevée ici, c'est pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Et cette question, il se la pose deux fois à la suite de cette question, pourquoi elle a été oubliée et pourquoi Dieu le repousse. Elle se termine chaque fois par pourquoi je dois marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi. Voilà l'émotion douloureuse qui pousse l'auteur du psaume à adresser des pourquoi à Dieu. Il est triste, il marche dans la tristesse. Et cela dans un contexte d'oppression de l'ennemi. Hein, ça peut être beaucoup de choses, mais c'était certainement des ennemis physiques, aussi des nations, ou de celui qui lui, on peut dire tout ce, celui qui, ou ceux qui lui veut du mal. Et il y a de quoi être triste quand on se sent oublié, même repoussé de Dieu. Il y a de quoi être triste. Mais alors pourquoi tout ça? Pourquoi je suis triste? Pourquoi il y a un ennemi ou une opposition, on peut dire peut-être pour nous, on n'a peut-être pas d'ennemi, mais quelque chose, on a l'impression que les circonstances sont contre nous. Ça peut être un sentiment aussi. Pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi mes ennemis intérieurs, peut-être qu'on a des choses contre lesquelles on lutte intérieurement, pourquoi ils ne disparaissent pas? Pourquoi? Pourquoi? Et ici, toutes ces questions, pour passer à la slide suivante, reçoivent une seule et même réponse, c'est l'espérance de Dieu. L'espérance de Dieu. Et elle se manifeste tout d'abord par le souvenir de la gloire passée. Je me rappelle avec émotion, et je résume, les années de gloire du passé. Et le passé est une source d'espérance. Se rappeler ce que Dieu a fait, ne jamais l'oublier. Mais cela ne suffit pas. Si on reste nostalgique, on pense que ce qu'on a vécu dans le passé va se reproduire. On espère, ça vient de nouveau comme ça. Et ça ne se reproduit pas, en tout cas pas comme ça. On développe une nostalgie qui peut être stérile. C'était bien avant, aujourd'hui ce n'est plus ce que c'était, je me lamente, et l'avenir devient aussi plus sombre du coup. Donc à ces deux questions, quand pourrais-je me présenter devant Dieu? Où est ton Dieu? La réponse est, souviens-toi du passé, qui te rappelle que tu peux avec foi entrer dans ma présence, entrer en relation avec moi. Et cela sera visible face à ceux qui doutent de l'existence de Dieu. C'est notre témoignage, notre mission d'être des personnes qui rendent l'existence de Dieu visible et aussi accessible à ceux qui ne croient pas en Dieu ou respectivement qui doutent que Dieu existe. La deuxième réponse à tous ces pourquoi, et c'est la louange au Dieu qui sauve. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. À trois reprises, ça revient. Quand il y a ces questions, pourquoi être abattu, mon âme, un gémir en moi, on pourrait s'attendre à des réponses du genre, parce que je me suis éloigné de Dieu, parce que j'ai péché, parce que je subis les conséquences de mes ancêtres, parce que. On est fort dans les introspections. Et ce n'est pas mauvais, hein. Je le précisais, parfois il faut aller à la racine de quelque chose, être guéri de certaines choses, oui. Mais l'important, ce n'est pas d'en rester uniquement à ce niveau-là. Et les descendants de Corée ici l'ont bien compris, puisque leur réponse à leur pourquoi, en tout cas ce qu'on lit, elle est, j'ai envie de dire simplement, espère en Dieu. Le psalmiste se dit ça à lui-même. Hein. C'est comme s'il se disait, ne cherche pas des réponses, mais affirme haut et fort que tu trouves l'espérance en Dieu. Affirme haut et fort que tu trouves dans ce que tu vis l'espérance en Dieu. Et pourquoi y a-t-il de l'espérance en Dieu? On le lit parce qu'il sauve. Il est mon salut, hein, il est dit. Alors il nous sauve de la mort éternelle, il nous donne la vie éternelle, mais aussi, c'est plus large, il nous sauve peut-être de blocages. Quand j'ai dit qu'il ne faut pas trop introspecter, mais parfois il y a effectivement des blocages ou des choses dans notre vie qui ont besoin d'être sauvées, en tout cas régénérées, guéries. C'est pour ça qu'on a l'espérance en Dieu. Il peut nous guérir de nos blessures. Il nous donne pas seulement un salut éternel après notre mort, mais un salut complet qui commence déjà ici, par des guérisons, par des progrès, par des victoires sur des sujets aussi dans notre vie. Et si Dieu nous sauve, il a dit ici en Jésus, hein, pour nous, nous le louons encore et encore et encore. À trois reprises aussi, c'est dit. Il dit pas juste « je louerai ». Intéressant, « je le louerai ». Encore. C'est comme si il ne faut pas arrêter. Encore. Je crois que c'est pour ça que la louange a une place aussi dans notre église. Des fois, on se dit la louange. On a encore un temps de louange au début. Ouais, c'est un peu une habitude. Loue-le encore. Encore. On en a besoin de louer Dieu encore. Et troisième point d'espérance, c'est une prière personnelle témoignant nos dépendances de Dieu. Là, vers la fin, dans le chapitre 43, verset 3, « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide et me conduise à ta montagne sainte et à ta demeure. » Donc, après avoir vidé son sac, en résumé, s'être lamenté en exprimant sa tristesse et aussi sa colère face à ses injustices, face à ses adversaires, avec cette demande de justice qui soit faite, la demande devient personnelle. Éclaire par ta vérité afin que je sois guidé vers toi. Tout à coup, de tout ce qui se passe là, envoie à moi, que je sois guidé moi. Donc c'est un peu du personnel tout à coup qui arrive là. Et le quatrième point, c'est un engagement à marcher avec Dieu. Donc la prière personnelle est accompagnée ici d'une décision, d'un engagement. Le psalmiste dit « J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. » J'irai, j'aime bien « j'irai », je décide, je m'engage, je me mets en route. Il y a un déplacement, j'irai. Ici, c'est d'aller vers l'autel de Dieu pour lui offrir un sacrifice. Il y a des passages du Nouveau Testament, offrir qui nous sommes, ce sacrifice vivant. Et j'ai envie de dire, d'aller avec toutes ces questions à Dieu. C'est pourquoi qui nous habite. Aller avec mes pourquoi vers Dieu. D'aller vers l'autel de Dieu. Mais il ajoute d'aller aussi vers Dieu. C'est deux choses. Hein. Aller amener les choses, mais d'aller soi-même vers Dieu. Pour mieux le connaître, celui qui est, comme pour le psalmiste le dit, ma joie et mon allégresse. Et finalement, de célébrer Dieu Ô Dieu, mon Dieu, accompagné d'un instrument, la harpe ici pour jouer de la musique, accompagner cette louange de musique. Et j'ai pensé à ce chant en « Je suis né pour te louer » qu'on a déjà chanté ici. C'est un chant assez radical, « Je suis né pour te louer ». Et j'aime bien parce que ça résume, j'ai envie de dire, c'est presque notre engagement unique, au-delà de tout ce qu'on fait. Hein. On est né pour louer Dieu. On est né pour être des adorateurs qui louent Dieu, et le chant le dit aussi, en toutes circonstances. Et c'est là qu'on est défié, hein. En toutes circonstances. Pour conclure, slide suivante, que faisons-nous de nos pourquoi ? Il y a beaucoup de pourquoi, pas que, mais des questions générales. Eh bien, à l'image de ce psaume, de ces deux psaumes, posons-nous ces questions devant Dieu, dans la prière, et donnons-leur des réponses d'espérance qui prennent diverses formes. Hein. Je résume un peu le souvenir du passé, quand Dieu a manifesté sa puissance, son amour, sa fidélité. La louange, encore et encore et encore, au Dieu qui sauve. La prière personnelle demandant à Dieu d'éclairer par sa vérité notre chemin, ce qui est finalement un témoignage de notre dépendance de lui. Et finalement un engagement à marcher avec lui en étant des adorateurs qui le célèbrent. Quand je préparais ce message, je suis tombé sur une citation de Gustave Flaubert, l'écrivain français, qui a dit « Le souvenir est l'espérance renversée. On regarde le fond du puits, comme on a regardé le sommet de la tour. » Donc il suggère que ce qui était tourné vers l'avenir, hein, l'espérance, devient avec le temps tourné vers le passé, ce souvenir. Et l'image est forte, hein, et autrefois on levait les yeux vers le sommet de la tour, c'est ça qui nous faisait avancer, ce qui élève, ce qui est une promesse, ce qui nous attire. Désormais on regarde dans le fond du puits, ce qui est en dessous, fermé, parfois amer. Donc c'est une vision désenchantée, hein, c'est pas où l'espérance humaine est très fragile et elle se transforme souvent en nostalgie, regret ou mélancolie. Et quand j'ai lu ça, j'ai demandé à ChatGPT, mais est-ce que j'avais l'impression, je ne savais pas trop comment le formuler, comment on peut tourner ce côté un peu négatif en espérance chrétienne. Et je vous dis ce que ChatGPT, et moi je trouve que c'est un résumé parfait, qui ne pouvait pas mieux conclure ce message. Sans Dieu, l'espérance finit souvent en souvenir douloureux. Avec Dieu, même le souvenir devient une semence d'espérance. La tour et le puits ne sont plus opposés. Le Christ est descendu au fond du puits pour combattre et vaincre la mort, pour nous ouvrir le sommet, la résurrection. Que cette année 2026 soit vraiment celle d'espérance, de Jésus qui ne s'est pas arrêté dans la mort, une espérance déçue finalement, mais qui est ressuscitée, une espérance vivante, présente, pour nous faire vivre de magnifiques projets. Personnel, mais aussi communautaire dans notre Église. Que dans cette nouvelle année, on puisse découvrir et entrer dans ces projets qui sont peut-être différents de ce que nous imaginons aujourd'hui avec notre expérience passée. Hein, plus on vieillit, j'ai envie de dire, plus on accumule de l'expérience et plus j'ai envie de dire qu'on a envie que ces expériences, d'une certaine manière, c'est normal, c'est une expérience qu'on a envie de valoriser peut-être, mais parfois c'est une expérience qui peut être au chemin aussi, pour dire « Ok, ben non, ça s'est passé comme ça il y a 5-10 ans, aujourd'hui il y a quelque chose d'autre, une nouvelle espérance. » Ce n'est pas une espérance, j'ai envie de dire, du réchauffé du passé, mais c'est quelque chose, un nouveau plat, une nouvelle nourriture qui a peut-être des liens ou pas du tout avec nos souvenirs passés. Alors je vous invite maintenant à un temps méditatif sur un fond musical. On va passer ce chant « Projet de paix », donc un chant d'exo. On va l'écouter. Et puis, pendant ce temps, je vous invite dans le silence, à prier, à demander à Dieu « J'ai besoin d'espérance en 2027 pour trois petits points ». Vous êtes peut-être dans des situations très spécifiques, bien, apportez dans ces temps, ça dure à peu près 5 minutes le chant, apportez à voix basse ou à chuchoter voilà, on fait ça tous ensemble, des sujets, des projets où vous vous dites, là, j'ai besoin d'espérance. Et vous les apportez à Dieu avec cette promesse qui est, donc ce chant est basé sur ce texte bien connu dans Jérémie 29, 11. En effet, moi, c'est l'Éternel qui parle, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et je rappelle ici, je crois que j'ai déjà dit, quand il dit ça ici, Jérémie, ce n'est pas le projet de retourner à Jérusalem, hein, parce qu'ils étaient ici à Babylone, mais les projets de paix, c'était pour ceux qui vivaient à Babylone. Donc dans un endroit quand même plutôt, pour les Juifs, pas forcément agréable à vivre. Donc dans le contexte, j'ai envie de dire, comme pour nous, dans un monde aussi marqué par le mal, il peut y avoir des projets de paix là-dedans qui peuvent se vivre. Alors voilà, on passe ce temps. Je vous invite, si vous voulez, vous avez tous des téléphones, vous avez peut-être pris des photos, vous ouvrez une note sur votre téléphone et vous notez peut-être ces projets 2026 qui ont besoin d'avoir de l'espérance. Comme ça, ça laisse une trace et vous pouvez aussi apporter ça à Dieu. Peut-être aller ce soir à nouveau, pourquoi ce projet-là que je t'ai écrit là, il y a une heure, hein, pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas bien avec ça ? Pourquoi ? Vous le rappelez à Dieu, vous lui dites. Et peut-être ça va éveiller en vous aussi une espérance. Ne vous attendez pas forcément à des réponses, parce que moi, ça m'a quand même épaté. Il n'y a aucune réponse au pourquoi ici dans le psaume. Rien. Espérant l'Éternel. Amen.